VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique, au micro Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'édition du mardi 2 juin 2015. À la une ce matin.
Crise au Burundi, les Nations Unies ont versé une aide de 15 millions de dollars hier pour faire face à la crise humanitaire provoquée par l'afflux de réfugiés burundais au Rwanda et en Tanzanie.
La Côte d'Ivoire, opération de révision des listes électorales en vue de la présidentielle d'octobre, ça a démarré.
Au Mali, le gouvernement a ouvert une enquête après la découverte d'une importante quantité d'engrais importés de mauvaise qualité livrés aux paysans.
Et les pays de la coalition luttant contre le groupe État islamique en réunion aujourd'hui à Paris.
Naufrage en Chine, un navire de croisière transportant plus de 450 personnes a coulé lundi soir dans le fleuve Yangtze.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le journal des sports, mais d'abord le journal.
Crise au Burundi, les Nations Unies ont versé une aide de 15 millions de dollars hier pour faire face à la crise humanitaire provoquée par l'afflux de réfugiés burundais au Rwanda et en Tanzanie, c'est ce que rapporte l'AFP. Plus de 70 000 réfugiés, dont de très nombreux enfants, ont fui le Burundi en proie à des violences depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé son intention de briguer un troisième mandat. Des enfants arrivent à la frontière mal nourris et malades, indique l'ONU. Le choléra a déjà tué une trentaine de réfugiés dans des camps en Tanzanie, tandis que le Rwanda a lancé l'alerte sur l'état de malnutrition des enfants qui arrivent dans le pays et qui représentent 60% des réfugiés.
Côte d'Ivoire, l'opération de révision des listes électorales en vue de la présidentielle d'octobre a démarré hier et devrait concerner 3 millions de nouveaux électeurs. Félix Yepassi Zambrou.
Les opérations vont durer 30 jours sur toute l'étendue du territoire. 2000 centres fixes et 500 équipes mobiles sont prévues pour l'inscription de 3 millions de personnes. Hors de la Côte d'Ivoire, les inscriptions auront lieu dans 19 pays du 7 au 30 juin. Les élections de 2010 avaient plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Plus de 3 000 personnes ont péri en 5 mois de violence. Pour le scrutin d'octobre prochain, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, est donné favori. Le Front populaire ivoirien, fondé par Laurent Gbagbo, traverse une crise interne. Le FPI a désigné Pascal Affine-Guessant comme son candidat pour affronter le président sortant.
Au Mali, le gouvernement a ouvert une enquête après la découverte d'une importante quantité d'engrais importés de mauvaise qualité livrés aux paysans. Claire Morin-Gibourg.
L'affaire concerne environ 40 000 tonnes d'engrais. Les intrants étaient destinés au coton, une des principales cultures au Mali et aux céréales. Ils ont été livrés par des fournisseurs de la compagnie malienne pour le développement des textiles, la CMDT, selon des sources proches de cette société majoritairement détenue par l'État malien. Le ministère du Développement rural a confirmé hier qu'une enquête avait été ouverte sur l'importation de 40 000 tonnes d'engrais frelaté et que toutes les personnes impliquées dans ce scandale répondront devant la justice. Interrogée par l'AFP, une source proche de l'enquête a fait état d'une magouille qui s'est déroulée entre l'appel d'offres et les fournisseurs de ces intrants. Lors d'une réunion au ministère de l'Agriculture où cette affaire a été mentionnée, le président Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé la semaine dernière qu'il sera sans pitié et intraitable contre d'éventuels fautifs. C'est une question de santé publique, de morale et d'éthique, avait-il dit. Selon un député du Rassemblement pour le Mali, Bafotigui Diallo, les 40 000 tonnes d'engrais représenteraient 40% des besoins du Mali, un pays essentiellement agricole.
Lutte contre l'Ebola en Guinée, le chef de l'UNMIR, la mission de l'ONU contre le virus, dénonce les violences de la semaine dernière dans l'ouest du pays. D'après Abdou Dieng, une ambulance a été brûlée à Tanéné et dans la préfecture de Fria, des partenaires de la réponse à Ebola ont été attaqués. Des troubles qui ont mis en péril le traitement des personnes atteintes et les efforts pour endiguer la fièvre hémorragique, souligne l'UNMIR. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées à la suite de ces troubles, a appris l'AFP auprès des autorités locales et des habitants.
Crise alimentaire au Nigeria et dans les pays limitrophes tels que le Niger et le Cameroun, l'ONU met en garde contre une pénurie alimentaire aiguë pour les personnes qui fuient les violences de Boko Haram. D'après le Programme alimentaire mondial, près d'un demi-million de personnes sont confrontées au manque de nourriture.
L'agence nigériane anticorruption a arrêté 6 cadres supérieurs de la banque centrale et 16 autres employés de banques privées soupçonnés de fraude. C'est ce qu'a rapporté un porte-parole de l'agence à l'AFP.
Les autorités sud-soudanaises ont décidé d'expulser Toby Lanzer, le coordinateur de l'aide humanitaire dans le pays, théâtre d'un conflit meurtrier. Des détails avec Eddie Isango.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné cette action et a appelé Juba à revenir immédiatement sur sa décision. Toby Lanzer a joué un rôle important dans la réponse aux besoins humanitaires des communautés affectées par les conflits. Aucune raison n'a été fournie pour motiver cette expulsion, mais un porte-parole onusien a expliqué que le mandat de M. Lanzer arrivait à son terme et que son remplaçant, Eugene Owusu, est déjà désigné. Les Britanniques Lanzer a été nommé au Soudan du Sud. En 2012, il devrait prendre prochainement les postes de coordinateur régional humanitaire de l'ONU pour le Sahel. Près de 2,5 millions de personnes manquent de nourriture dans ces pays ravagés par la guerre et plus de 120 000 Sud-Soudanais survivent dans des camps des Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les pays de la coalition luttant contre le groupe État islamique sont en réunion aujourd'hui à Paris, dirigée par les États-Unis. La coalition doit discuter de la stratégie adoptée face aux avancées des djihadistes en Irak et en Syrie. D'après un officiel du département d'État, le premier ministre irakien Haider al-Abadi doit expliquer aux membres de la coalition ce que son gouvernement compte faire pour libérer Ramadi et la province d'Anbar et comment les partenaires internationaux peuvent lui venir en aide. Les Irakiens espèrent notamment pouvoir mobiliser les tribus sunnites pour reconquérir la province d'Anbar. La stratégie de la coalition consiste actuellement à mener des raids et à former des soldats irakiens ou des rebelles modérés syriens pour l'action au sol. Mais pour l'heure, les quelques 4000 raids menés en 10 mois n'ont pas réussi à stopper le groupe État islamique.
Un Américain, parmi plusieurs détenus au Yémen, pays ravagé par la guerre, a été libéré et accueilli lundi dans le sultanat d'Oman, qui a facilité les tractations entre Washington et les rebelles yéménites. Jean-Roger Bion.
La libération de l'Américain identifié sous le nom de Cassie Coombs a été annoncée par le département d'État. Aucune information d'après l'AFP n'a été donnée sur la période de détention au Yémen de M. Coombs, ni sur le groupe qui le détenait. Washington a annoncé dimanche que plusieurs Américains étaient retenus au Yémen. Le Washington Post a parlé de 4 Américains prisonniers des rebelles houthis. L'un d'eux avait été arrêté pour un visa périmé, puis accusé de voyager dans des zones sensibles du pays. Endossant le rôle de médiateur, Oman, la seule des 6 monarchies du Golfe à ne pas participer au raid de la coalition dirigée par Riyad, a accueilli lundi des discussions entre Américains et des rebelles chiites. Des sources diplomatiques ont confirmé la tenue de cette discussion informelle et discrète, des tractations que le gouvernement yéménite en exil avait évoquées déjà dimanche à Riyad.
Naufrage en Chine, un navire de croisière transportant plus de 450 personnes a coulé lundi soir dans le fleuve Yangtze. Le drame s'est produit lors d'une tempête dans la région de Hubei. L'agence Xinhua a fait état de 20 personnes secourues et les fortes pluies et vents rendent difficiles les opérations de sauvetage.
Ici aux États-Unis, le Sénat américain devrait voter aujourd'hui le projet de loi rétablissant pour 6 mois la collecte de données des appels téléphoniques des Américains par l'Agence nationale de sécurité. C'est ce qu'a annoncé le chef de file de la majorité républicaine, Mitch McConnell. La collecte de ces métadonnées a été totalement interrompue en raison de l'expiration de la section 215 du Patriot Act qui fondait légalement cette collecte.
Proche-Orient, Israël s'insurge contre la décision des Nations Unies d'agréer une ONG palestinienne que l'État hébreu estime liée au Hamas. L'ONG Palestinian Return Center, basée en Grande-Bretagne, a donc un accès permanent à la tribune de la commission de l'ONU sur les organisations non gouvernementales. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jacques Aristide.
En Côte d'Ivoire, ouverture hier d'une nouvelle concession automobile à Abidjan. C'est à l'initiative du groupe CFAE, partenaire des grandes marques internationales. L'inauguration de ce showroom de 6000 m² a eu lieu en présence des dirigeants du groupe qui se rendent ce mardi en République démocratique du Congo pour le lancement d'une concession de 10000 m² à Kinshasa. Le groupe possède déjà un tiers du marché des véhicules neufs dans la capitale congolaise. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, est désormais présente à Abidjan, où elle vient d'ouvrir son troisième bureau sur le continent, après celle d'Harare au Zimbabwe et d'Abuja au Nigeria. Pour donner le coup d'envoi à ses activités en Côte d'Ivoire, Afreximbank a aussitôt alloué environ 84 millions de dollars pour financer la construction d'un établissement hôtelier dans le pays. La Banque africaine d'import-export a prévu également de lever plus d'un milliard de dollars grâce à des euro-obligations et des prêts et envisage de réaliser pour la première fois des emprunts en yuan chinois. C'est ce que rapportent les agences Ecofin et Bloomberg. Et puis, l'agence nigériane anticorruption a arrêté 6 cadres supérieurs de la banque centrale et 16 autres employés de banques privées soupçonnés de fraude aux devises. C'est ce qu'a indiqué hier à l'AFP Wilson Uwujaren, porte-parole de l'agence. Ces arrestations interviennent quelques jours seulement après la prise de fonction de Muhammadu Buhari. Le nouveau président a promis des mesures sévères pour endiguer la corruption endémique qui sévit jusqu'au plus haut sommet de l'État.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jacques Aristide. Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgan.
Yaya Touré reste à Manchester City.
Le milieu ivoirien de 32 ans que la rumeur envoie à l'Inter de Milan après une saison délicate assure qu'il restera à Manchester City l'année prochaine selon ses déclarations au quotidien régional Manchester Evening News. Marqué cette année par la perte d'un de ses frères ainsi qu'une saison éprouvante qu'il a vu remporter en hiver la Coupe d'Afrique des Nations mais également se blesser à plusieurs reprises, Touré est convaincu que tout cela est derrière lui.
Mondial des moins de 20 ans.
Les matchs ont lieu en Nouvelle-Zélande. Le Ghana joue face à l'Argentine. Coup d'envoi 7h temps universel ce mardi. Lundi, c'était le choc de la troisième journée et presque un classique dans cette compétition. Le Brésil et le Nigeria se rencontraient pour la sixième fois en Coupe du Monde des moins de 20 ans pour le compte du groupe D. Ces retrouvailles ont tenu toutes leurs promesses et ont tourné à l'avantage du Brésil pour la cinquième fois dans l'histoire. Victoire 4-2. On rappelle que samedi, le Ghana a été tenu en échec un partout par l'Autriche. Et dimanche, grâce à ses deux Lillois Adama Traoré et Dieudonné Gbakele, le Mali a remporté son premier match face au Mexique 2-0. En revanche, défaite du Sénégal qui s'est incliné face au Portugal 3-0.
Tennis, sensation à Roland-Garros.
La Russe Maria Sharapova, numéro 2 mondial et tenante du titre, a été éliminée par la Tchèque Lucie Safarova en 2-7 lors des huitièmes de finale. Au total, les quatre demi-finalistes de l'édition 2014 de Roland-Garros sont ainsi déjà éliminés. Chez les hommes, Roger Federer s'est montré solide face à Gaël Monfils en huitième de finale. 6-3, 4-6, 6-4, 6-1. Richard Gasquet a été fantomatique face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. 6-1, 6-2, 6-3 pour le Serbe qui accède au quart de finale.
Il n'y a pas d'âge pour faire du sport, Nicolas.
Oui, Harriet Thompson est devenue dimanche à 92 ans et 65 jours la femme la plus âgée au monde à disputer un marathon. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs du marathon de San Diego. La nonagénaire qui participait pour la 16e fois à l'épreuve californienne a mis 7h, 24 minutes et 36 secondes pour boucler les plus de 42 km de l'épreuve. Ça laisse rêveur, Morgan.
À noter enfin, Nicolas, concernant le scandale qui entoure la FIFA, Jérôme Valcke, le secrétaire général de la FIFA et bras droit de Sepp Blatter, a transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation, Jack Warner. C'est ce que rapporte le New York Times. Par ailleurs, la justice brésilienne a ouvert une enquête contre Ricardo Teixeira, l'ancien président de la Confédération brésilienne de football. Il est soupçonné de blanchiment d'argent et de fraude entre 2009 et 2012. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du parquet de Rio de Janeiro, cité par l'AFP.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est réunis en sommet dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie ont demandé un report de 6 semaines des élections au Burundi. Le parti d'opposition UPRONA ne veut pas de report des élections législatives et communales prévues le 5 juin. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gaston Sindimo, secrétaire général du parti UPRONA à Bujumbura.
Nous sommes réjouis de la réunion du chef d'État de la sous-région qui se préoccupe de la situation sécuritaire au Burundi. C'est une bonne chose et le parti UPRONA a pris acte des recommandations ici de ce sommet. Nous, au parti UPRONA, nous avons répondu à l'appel de la CENI. Nous avons accepté le premier report des élections. Aujourd'hui, nous voyons que le problème, c'est le problème des élections présidentielles. C'est le problème du président de la République, Nkurunziza. Qu'est-ce que les élections présidentielles ont de semblable avec les élections législatives et communales? Nous avons dépensé de l'argent, nous avons dépensé de l'énergie, donc c'est pratiquement impossible de prolonger les élections législatives et communales pour un mois et demi, parce que le conseil communal va tomber, au contraire, avec la Constitution de la République du Burundi, même aussi le Sénat pourra même être frappé d'inconstitutionnalité. Donc, nous demandons à la CENI, qui est responsable des opérations électorales, de voir ce qui est possible. Mais pour nous, les élections législatives, les élections communales, puisqu'il ne pose pas de problème au niveau de ces élections, devraient se dérouler au 5 juin de cette année.
Vous pensez que d'ici vendredi prochain, on peut tenir des élections au Burundi?
Bien sûr que oui. Le parti UPRONA est prêt pour les élections. Même demain matin, le parti UPRONA est prêt. Parce que nous avons les mandataires dans tous les bureaux de vote. Nous sommes disponibles maintenant à aller aux élections.
Qu'en est-il de la présidentielle? Les chefs d'État n'ont pas parlé du troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Mon frère journaliste, vous savez, tous ces gens qui ont créé des prétextes se basent sur la personnalité de Nkurunziza. Nous, le parti UPRONA, n'a pas d'objection sur Nkurunziza. Mais nous voulons remplacer le CNDD-FDD. En remplaçant le CNDD-FDD, c'est via les élections législatives, c'est via les élections communales. Le jour où le CNDD va être frappé dans ces élections-là, le président Nkurunziza prendra acte et probablement il pourra même désister par rapport aux élections présidentielles. Alors, donc, initions les efforts pour mettre hors d'état de nuire le CNDD-FDD dans les premières élections communales et législatives. On n'en a que faire avec le président de la République, nous avons affaire avec le parti CNDD-FDD.
Donc vous pensez que Pierre Nkurunziza peut se représenter pour un troisième mandat?
Non, pour nous ce n'est pas un problème. Pour nous, le président de la République doit respecter scrupuleusement la Constitution de la République du Burundi. Si la Cour constitutionnelle a tranché pour qu'il puisse se faire élire, nous, nous allons le battre dans l'urne et non pas dans la rue.
Gaston Sindimo, secrétaire général du parti UPRONA à Bujumbura. Une femme pour la toute première fois à la tête de la République de Maurice. Il s'agit d'Amina Gourib Fakim, désignée hier par le gouvernement mauricien comme présidente du pays. Au micro de Jacques Aristide, cette scientifique et biologiste de renommée internationale fait part de son sentiment de fierté.
Je suis animée par un sentiment de très grande fierté de pouvoir servir mon pays à ce haut niveau. Le niveau suprême que la Constitution permet. C'est une très grande avancée pour la femme. Ça a fait sauter quelques verrous. Je peux dire qu'on a plus ou moins franchi le fameux glass ceiling. Et pour l'Afrique et aussi pour les jeunes filles qui émergent, je pense que c'est un message qui est très fort que la femme peut faire autre chose. Et elle peut faire aussi avancer le destin d'un pays et j'espère pouvoir être à la hauteur.
Qu'est-ce que cela va vraiment changer à la tête du pays? On sait qu'à Maurice, c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Donc, est-ce que vous allez pouvoir aller au-delà du symbole, c'est-à-dire une femme à la tête du pays?
Les attributions du président sont vraiment régies par la Constitution. Mais moi, je pense que la présidence, ou bien le président, ou bien la présidente peut faire beaucoup plus que ça. Et vous savez, dans le passé, les présidents d'antan sont cantonnés à un certain travail. Mais moi, je pense le faire différemment, vu que j'ai une formation qui est scientifique et je ne suis pas du sérail. Alors, je vais faire les choses un peu différemment. Je vais m'engager peut-être un peu plus, être plus à l'écoute des gens, mais surtout m'engager au niveau de ce que je sais faire jusqu'à maintenant. C'est regarder au niveau des réflexions qu'on peut apporter, au niveau de la science, technologie, l'innovation, l'entrepreneuriat, et vraiment aller vers une diplomatie économique, diplomatie scientifique, diplomatie sociale, parce que Maurice, nous avons quand même de bonnes pratiques qui n'ont pas été valorisées à ce jour. Et je pense qu'avec l'ouverture qui se présente maintenant réduite, il y a moyen de faire valoir effectivement toutes ces bonnes pratiques. Et pour l'Afrique, c'est important parce qu'on doit pouvoir exporter ces bonnes pratiques vers le continent.
La nouvelle présidente mauricienne, Amina Gourib Fakim, jointe à l'île Maurice.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le Niger sera la première destination à l'extérieur du nouveau président nigérian Muhammadu Buhari, 5 jours après sa prise de fonction. Il va y effectuer une visite d'État de 2 jours, mercredi et jeudi, avant de continuer sur le Tchad. Il faut dire que ces deux pays ont été les premiers à s'engager pour lutter aux côtés des armées nigérianes contre le groupe terroriste Boko Haram. Alors comment cette visite du président nigérian est-elle accueillie par les Nigériens? Notre correspondant Abdulrazak Idrissa a recueilli les impressions de quelques habitants de Niamey.
C'est en quelque sorte une reconnaissance de l'engagement du Niger dans la lutte contre la secte Boko Haram.
Il y a une sorte d'unanimité chez beaucoup de Nigériens sur le choix porté par le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari d'effectuer au Niger sa première visite d'État à l'extérieur depuis son investiture. Pour eux, c'est plus que jamais le signe de la vivacité de la coopération entre les deux pays.
Moi, je crois qu'en choisissant le Niger, en réalité, Buhari revient chez lui. Parce que n'oubliez pas que nous avons plus de 1200 km de frontière avec le Nigeria. Nous avons les mêmes origines. C'est pratiquement la colonisation qui est venue tracer des frontières entre nos deux pays.
Les relations entre le Niger et le Nigeria sont, depuis la nuit des temps, très avancées. Je dirais même que c'est des familles qui se retrouvent de part et d'autre des frontières.
Au-delà de tout, certains Nigériens voient aussi dans cette visite du général Buhari au Niger comme un choix qui s'impose à lui, question sécuritaire oblige.
C'est un choix obligé pour ce nouveau président, dans la mesure où c'est un connaisseur de la sécurité en tant qu'ex-général du Nigeria. Donc il sait bien pour que son engagement puisse être porteur et efficace. Il faut bien évidemment coordonner avec le pays voisin dont l'engagement a été quand même montré.
Je pense que le fait qu'il entame, avant même la formation de son gouvernement, une visite ici et au Tchad, c'est pour montrer en tout cas qu'il n'a pas été insensible aux efforts que notre peuple a fournis à travers notre intervention militaire, en tout cas au Nigeria. C'est pratiquement pour relancer le combat contre Boko Haram. Il veut rapidement finir avec Boko Haram. C'est d'abord une question sécuritaire. Les trucs économiques et autres là vont venir par la suite. Mais dans l'immédiat, le problème qu'il cherche à résoudre, c'est le problème de Boko Haram. Et je pense que c'est pour cela qu'il revient chez lui.
Pour la majorité des Nigériens, il va certes être question sécurité dans les échanges entre Issoufou et Buhari. Il doit aussi être évoqué la question énergétique. Le Niger dépend en effet en grande partie du Nigeria sur ce plan. Les dernières perturbations dans le secteur au Nigeria ont été lourdement ressenties ici au Niger. Il faut noter que cette visite du général Muhammadu Buhari est la raison principale du report de la marche prévue mardi par les organisations de la société civile nigérienne. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Cinq ans jour pour jour après la mort du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, et son chauffeur, Fidel Bazana, l'ONG La Voix des Sans-Voix, dont il fut le directeur exécutif, réclame toujours justice en République démocratique du Congo. Une manifestation a été organisée lundi à Kinshasa sous le thème « 5 ans après votre assassinat, tous réunis pour défendre votre cause ». Dolly Ibefou, l'actuel directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix, demande que la lumière soit faite sur cet assassinat et que le corps de Fidel Bazana soit rendu. Il est au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons toujours demandé de faire la lumière sur cet assassinat. Faire la lumière, c'est au niveau de la justice, dire pourquoi l'État congolais a organisé, planifié cet assassinat. Pourquoi on devrait assassiner Floribert Chebeya? Qui ont assassiné Floribert? Qu'il puisse préciser tout le monde qui a donné cet ordre-là. Nous savons ces personnes, nous les connaissons bien, mais il faut que la justice puisse le prouver. Il faut que la justice ou l'État congolais puisse dire que c'est X qui a ordonné, c'est Y qui a assassiné. Et l'État congolais nous dit non, le corps de Fidel, nous l'avons mis à tel endroit. C'est tout ce que nous cherchons jusque maintenant. Je crois que l'État congolais a l'obligation de faire la lumière sur cet assassinat. Parce que c'est son image qui a été ternie. C'est l'État congolais qui choisit ou qui nomme des personnes ou des autorités qui sont irresponsables. Il a vraiment le besoin de redorer son image qui a été ternie avec cet ignoble assassinat. Le procès se trouve à la haute cour militaire qui est en train d'instruire maintenant ce procès. La dernière audience a confronté les collaborateurs, M. Mouila, qui était venu avec une lettre, mais sa mission était de identifier Floribert. Nous attendons que la haute cour militaire puisse se prononcer, puisse poursuivre tout le monde. Nous pensons en premier lieu le premier suspect qui est le général John Numbi. Parce que pour nous, c'était lui qui a organisé cela. La justice devrait l'inculper. S'il était quelqu'un d'autre, je crois qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça. C'était la première personne qui devrait être arrêtée. Mais voilà, on les laisse libres. On laisse Kenga Kenga, qui a assassiné Floribert, Jacques Mugabo, s'est promené à Lubumbashi, mais on ne sait pas les arrêter.
Dolly Ibefou, l'actuel directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Ici aux États-Unis, l'autorisation de la collecte par la NSA des données téléphoniques des Américains a expiré dans la nuit de dimanche à lundi. Le Sénat n'a pas pu s'accorder sur le renouvellement de ce programme révélé au grand public par Edward Snowden. Du coup, depuis dimanche soir, les services de renseignement ne sont plus en mesure de continuer la collecte massive de données. C'est le sénateur républicain Rand Paul qui a bloqué la procédure. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation sur la sécurité des USA? Réponse de Chika Kanyori, directeur du magazine Transatlantique de Montréal.
D'abord, ça veut dire que à partir de minuit, le gouvernement n'a plus les informations qu'il pouvait avoir.
Alors, est-ce que les terroristes doivent célébrer? Est-ce que l'Amérique est plus exposée?
Peut-être un tout petit peu pour un temps, mais je ne pense pas que ça soit si dangereux que ça, puisque comme dit, probablement que dans quelques temps, ça va être fait. C'est une question de procédure. Ce n'est pas une question de fond.
D'habitude, on dit que ce sont les démocrates qui sont faibles en sécurité nationale.
Oui.
Et ce blocage vient d'un républicain, Rand Paul. Oui. Comment expliquer cela?
Oui, effectivement, c'est un républicain, mais c'est un républicain qu'on appelle libertarien. Il est assez proche du Tea Party, mais il est encore un peu plus à l'extrême même dans certains dossiers, puisque c'est des gens qui croient en la liberté individuelle, poussée à l'extrême. Ils veulent que l'État n'a rien à voir dans les choses. Or, sans État non plus, la liberté ne peut pas être illimitée. C'est complètement incroyable, puisque c'est l'État aussi qui veille au respect des libertés.
Alors, on s'est dit qu'il faut s'attendre à ce que cette loi quand même soit votée, peut-être dans la semaine ou en tout cas dans les jours à venir. Oui. Est-ce qu'il y aura des changements ou est-ce que le Patriot Act va être reconduit tel qu'il est?
Je pense qu'il y a des gens qui auraient souhaité qu'il y ait des changements, mais je pense que dans la situation actuelle, ce n'est pas certain qu'il y en aura beaucoup. Je pense que toutes les concessions auxquelles les partis, beaucoup de gens s'entendaient, ont été faites de deux côtés, puisque comme vous le savez, les Républicains n'aiment pas beaucoup le président Obama et que s'ils sont arrivés à s'entendre, les démocrates et les républicains, c'est qu'il y a un consensus national quand même.
Chika Kanyori, directeur du magazine Transatlantique de Montréal. Ainsi va le monde aujourd'hui. Morgan Guiriec à la présentation, Anne Albertson à la mise en onde. Excellente journée à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.